Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Une émission toujours spéciale, malgré le déconfinement qui a commencé lundi dernier. Une crise qui a duré plus de 7 semaines pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Et ce n'est bien entendu pas terminé. Alors sur cette antenne, vous le savez, on prend régulièrement la parole à vos côtés. Personnes malades, familles, proches aidants, pour répondre à chacune de vos questions autour de la maladie d'Alzheimer. Et bien entendu, nous sommes plus que jamais mobilisés en cette période si spéciale. Alors la semaine dernière, vous avez encore été très nombreux à réagir et à poser vos questions. Merci de votre investissement et de votre fidélité. Alors aujourd'hui, c'est la première émission du déconfinement, ça ne règle pas tout, que vous ayez un proche avec vous à la maison ou en EHPAD. Une émission toujours si vous avez des questionnements, des peurs, et une émission aussi pour tout le personnel soignant qui nous écoute en ce moment. On continue de garder le lien. Pour répondre à vos questions, vous apporter un conseil, nous retrouvons la psychologue de l'association France Alzheimer, Judith Mollard-Palacios. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Alors avant de réagir à certains témoignages et questions, Judith, on va parler sans grande surprise du déconfinement. Ça change quoi concrètement ?
Alors je crois que ce déconfinement, c'est comme de sortir d'une longue maladie. Il y a quelque chose en même temps qui nous ouvre la perspective d'une vie qui va pouvoir reprendre son cours et en même temps, comme en convalescence, on ne sait pas très bien comment reprendre les activités, comment repartir auprès des dispositifs médico-sociaux. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes malgré tout qui restent présentes pour les personnes qui vivent au domicile avec leur famille, évidemment pour les aidants qui ont leurs proches en établissement, et on a encore eu de très très nombreux témoignages qui montrent comme cette reprise est extrêmement progressive et surtout très inégale d'une structure à l'autre. Enfin, je crois que ces premiers jours de déconfinement sont encore sous le sceau de la prudence, bien sûr, mais aussi de l'inquiétude. Ces familles qui ne savent pas toujours pas comment leur proche à domicile vont pouvoir continuer, enfin, ou adopter des mesures de protection, comment réintroduire pour certains les auxiliaires de vie à domicile dans un contexte le plus sécurisant possible. Bref, je crois que chacun va y aller pas à pas avec des ajustements progressif et singulier à chaque situation, et toujours en se posant la question du bénéfice et des risques à réouvrir, se réouvrir vers le monde du dehors, vers le monde extérieur, mais en même temps dont on a bien besoin pour ces familles rester en huis clos pendant ces 7 semaines.
Alors on va passer aux questions et témoignages que nous avons sélectionnés, car je le dis, vous êtes très nombreux à réagir. On va commencer par le témoignage de Corinne. Mon papa malade ne reconnaît plus son épouse, ma maman, depuis une semaine. Il dit ne pas être chez lui et devoir partir rejoindre sa femme dans leur maison. Comment réagir et que faire ?
Oui, alors ce sont en effet des situations qui peuvent se produire dans l'évolution de la maladie. On sait que la maladie d'Alzheimer entraîne ce qu'on appelle une amnésie rétrograde, c'est-à-dire que la personne perd ses souvenirs des plus récents vers les plus anciens et peut à un moment donné dans l'évolution de la maladie ne plus avoir en mémoire la maison qu'elle habite, même si elle y vit depuis 10, 20, voire 30 ans. Et elle va avoir en mémoire la maison, une maison plus ancienne, une maison peut-être même de l'enfance, et peut en effet exprimer ce sentiment de ne plus être chez elle. Même chose quand il s'agit de son épouse, peut-être que ce monsieur a en mémoire une épouse plus jeune de 10, 20, 30 ans et avoir le sentiment qu'aujourd'hui l'épouse qui est à ses côtés n'est plus tout à fait son épouse et qu'il doit aller chercher cette épouse de sa mémoire et cette maison de sa mémoire, et qui suscite bien sûr une forte anxiété. Alors, est-ce que ce monsieur, hein, il y a ensuite la situation du confinement qui a favorisé peut-être hein, un petit épisode confusionnel qui fait que là, il a perdu ses repères et que peut-être il va les retrouver. Ça, c'est difficile de savoir. Alors, que dire à cette famille, ça ne sert pas toujours hein, de vouloir à tout prix ramener la personne hein, à la réalité du moment, hein, en lui prouvant par A plus B que ce monsieur est bien chez lui, que son épouse est bien son épouse, mais peut-être voilà, lui faire exprimer hein, qu'est-ce qui lui manque, comment était sa maison, et d'essayer de comprendre finalement l'angoisse sous-jacente et surtout avoir des attitudes, des paroles rassurantes hein, en lui disant qu'il est en sécurité là où il est, qu'il est entouré de personnes hein, qui tiennent à lui, qui l'aiment. Voilà, d'essayer en tout cas de comprendre que sous cette demande, eh bien, il y a une forte anxiété quand on a une maladie en effet qui nous fait perdre progressivement nos repères. Et nos repères les plus importants finalement. Hein.
Alors on sait que la perte de mémoire c'est une des principales manifestations de la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi cette problématique de l'agressivité. C'est ce que nous raconte Madame Prévost dans son témoignage. Que faire quand l'agressivité fait son apparition? Elle se manifeste surtout le soir.
Oui, alors là aussi c'est quelque chose d'assez fréquent. En fait, l'agressivité, les manifestations agressives, qu'elles soient verbales, parfois même physiques, elles se traduisent aussi par une opposition hein, aux aides, aux soins que l'on veut apporter à la personne, est une façon d'exprimer quelque chose hein, avec les moyens qui sont ceux de la personne malade, une manière de protester, hein, de s'opposer. Quand on ne comprend plus le contexte dans lequel on se trouve, quand on ne comprend plus les demandes hein, que l'on peut nous faire. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre l'agressivité comme l'expression d'une souffrance, d'un malaise, d'une incompréhension, d'une angoisse. Hein. Et on voit bien que cette anxiété qui peut se manifester par de l'agressivité est souvent plus fréquent en fin de journée parce qu'il y a la fatigue hein, de la journée qui s'est écoulée par peut-être hein, l'accumulation des sollicitations hein, que l'on a pu faire à la personne. On voit bien aussi qu'il y a souvent une angoisse qui apparaît en fin de journée, quand c'est ce qu'on appelle l'angoisse crépusculaire. Hein. Alors là, on est au printemps, c'est un petit peu moins vrai, mais quand voilà, la luminosité diminue, enfin, c'est souvent un moment plus difficile à traverser. Donc, en tout cas, dans ces moments-là, moins solliciter la personne, la mettre dans des conditions hein, le plus possible de détente. On peut mettre en place des rituels de détente avec de la musique, avec des massages des mains, avec la lecture d'un conte, hein, pourquoi pas. Enfin, un peu comme on le ferait pour de jeunes enfants, sans comparer les personnes, bien sûr, adultes à des enfants, mais qui peuvent être très perméable, hein, en effet, comme les enfants à l'environnement. Donc, et puis, si vraiment hein, cette période est extrêmement difficile à traverser, il faut évidemment en parler au médecin traitant, peut-être pour aider un peu la personne avec un médicament à traverser ce moment-là. Mais avant ça, je crois qu'il y a vraiment plein d'autres choses à essayer en termes de détente, de réassurance, voilà.
Et on passe au message de Martine qui nous dit « J'ai tellement envie de retrouver maman par le toucher, les bisous, les caresses. C'est avec ces gestes qu'elle est un peu avec nous. » C'est important cette notion du toucher, Judith ?
Ben, bien sûr, c'est extrêmement important. On voit déjà comment nous, hein, qui ne sommes pas séparés physiquement de nos tout proches, qui n'avons pas hein, de difficultés au niveau de l'expression verbale, comment déjà ça a été difficile pour nous dans ce temps de confinement, en tout cas de ne pas voir nos amis, de ne pas voir les membres de la famille éloignée, hein, comment cette distanciation sociale, cette impossibilité finalement à se voir, mais aussi à se toucher, nous a manqué. Et comme nous sommes heureux, hein, en période de déconfinement, de commencer à revoir notre entourage social et familial, donc on voit bien comment dans ces situations de séparation, quand la personne vulnérable est en établissement, combien c'est extrêmement difficile. Et puis, c'est d'autant plus difficile quand la personne malade, en effet, n'a plus accès à une communication verbale simple, hein, enfin, et aisée. Et du coup, eh bien, ce qui reste, c'est évidemment la communication non verbale qui prend une ampleur d'autant plus importante. Et tous les messages que nous recevons vont dans ce sens, hein. C'est presque une torture, presque un sévice, hein, cette impossibilité de toucher, de caresser nos parents âgés, vulnérables, atteints d'une maladie neurocognitive en établissement.
Même écho chez Geneviève, ma maman en EHPAD a très mal vécu ce déconfinement. Elle pensait pouvoir nous serrer dans ses bras, elle s'est quasiment rendue malade de ne pas pouvoir le faire. C'est une situation totalement inhumaine. C'est terrible pour les familles de ne pas pouvoir se faire de câlins et de gestes d'amour, comme par exemple prendre une main et la caresser doucement. C'est vraiment important, cette notion de contact.
Oui, 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 et ça n'a que trop duré. Alors, c'est vrai qu'il faut être très prudent, que les personnes âgées résidant en EHPAD sont un public extrêmement vulnérable au virus. C'est vrai que les EHPAD ont une responsabilité importante et qu'elles doivent être très vigilantes, hein, aux mesures, alors plutôt de barrières, hein, qui est un bien... mauvais mot, enfin des mesures de protection, mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait malgré tout une compréhension de ces situations, une adaptation aussi au cas particulier, au cas singulier de chacun. Voilà, je crois qu'on a entendu à quel point le déconfinement progressif et devait rester extrêmement progressif en EHPAD. Mais il faut qu'on y apporte un regard, hein, d'humanité, un regard aussi au cas par cas, avec du bon sens. Il y a des EHPAD, hein, qui font le maximum pour que ce retour aux échanges soit possible. Et puis des EHPAD qui ont peut-être plus de difficultés. Alors évidemment, en fonction de la zone où on se trouve, qu'on soit un département rouge ou un département vert, bien sûr que voilà, les choses ne sont pas aussi difficiles, hein, mais en tout cas, voilà, vraiment dire aux EHPAD qu'elles soient attentives à ces besoins, à ces besoins d'humanité, à ces besoins, et puis aussi de vraiment identifier le bénéfice-risque, hein, c'est-à-dire, certes, il y a ce risque du virus qui peut emporter une personne âgée vulnérable, mais quel risque y a-t-il à ne plus avoir de contact avec sa famille, hein. Et on a évoqué la semaine dernière ces syndromes de glissement qui sont quand même une réalité actuellement dans les EHPAD. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, hein, de quoi, voilà, nous sommes tous amenés à finir notre vie, notamment quand on vit dans un EHPAD. Et bon, est-ce qu'il vaut mieux partir du virus ou partir d'un syndrome de glissement parce que on a été privé de la présence de ses proches? Bref, tout ça, il y a vraiment une réflexion éthique complexe, certes, hein, à mener, mais qui doit être menée au sein des établissements en équipe pluridisciplinaire et surtout qui doit prendre en compte la demande, le besoin des familles. Certaines familles souhaiteront rester à distance, hein, pour protéger leurs proches, et puis d'autres vraiment perçoivent et ont ce besoin, ou certains résidents, hein, expriment cette nécessité presque vitale de retrouver leur famille et de les serrer dans leurs bras.
Alors justement, on va quand même lire aussi des témoignages positifs, c'est joie, c'est important vu le contexte. Il y a Véronique qui nous écrit « Ma maman, je l'ai 2 fois par semaine en vision. Il y a longtemps qu'elle ne sait plus qui je suis. Elle me connaît autrement et elle me dit tout le temps qu'elle m'aime désormais. Et cette semaine, elle m'a chanté « Joyeux anniversaire ». Quelle émotion !
Ce qui me manque le plus, ce sont les échanges précieux que nous vivons quand nous sommes côte à côte, même si ma maman n'arrive plus très bien à parler. Je remercie les équipes de l'EHPAD de tout faire pour que nous puissions rester en contact. Il y a aussi Muriel qui nous parle de son père qui est en EHPAD. Je remercie et je félicite la direction et le personnel de cet établissement. Aucun membre du personnel ni aucun résident n'a été atteint. Les animations ont été aménagées avec le confinement. Mon père est en pleine forme grâce à la compétence et à la bienveillance de tous les acteurs de cet EHPAD. Ça fait du bien de dire ça.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il n'est pas question de pointer du doigt, bien évidemment, les équipes soignantes des EHPAD qui, pendant cette pandémie qui n'est pas terminée, mais on fait preuve d'une présence et d'un courage, on va dire, et qui ont dû compenser aussi en quelque sorte l'absence des familles, même si ça ne remplace pas bien sûr les échanges intimes, les échanges privés, mais il faut en effet remercier et soutenir ce personnel soignant. Et on voit que, bien sûr, il y a eu de nombreuses situations où les choses n'ont pas été trop douloureusement vécues et où les familles ont eu le sentiment que les professionnels faisaient, malgré les contraintes, le maximum pour que le lien, pour que la relation reste possible. Je crois que ce qui est aussi très anxiogène pour les familles, c'est que ce lien, cette relation à son proche atteint d'une maladie neurocognitive évoluée, était déjà fragilisé, était déjà au risque de se rompre, tient parfois par un fil. Enfin, c'est quelque chose qui était déjà extrêmement sensible. Donc, on imagine bien comment cette distance physique a augmenté pour certaines familles l'anxiété liée à cet éloignement, à cette séparation. Je crois qu'il faut vraiment comprendre ce contexte et que les EHPAD aient une sensibilité, une attention particulière pour ces familles. On voit que là, donc, les dernières mesures envoyées par le ministère aux établissements encouragent à un assouplissement très progressif des mesures d'isolement et de confinement, que ces mesures se relèvent toujours de la décision, de la responsabilité du directeur d'établissement, mais qu'il est nécessaire en effet de rapidement avoir un plan de reprise de l'activité dont doivent être informés les conseils de vie sociale, les CVS, et auprès duquel les familles peuvent se renseigner. Je crois que ce qui est important aussi, c'est que l'information soit fournie. On a eu des témoignages où les familles n'ont pas de nouvelles, ne savent pas quand, comment les choses pourront reprendre. Et je crois que ne pas savoir, c'est encore plus angoissant. Il vaut mieux avoir connaissance de la prise de décision de l'EHPAD et de son plan de reprise de l'activité, même si il ne doit pas se faire dans l'immédiat, mais au moins d'avoir une information. Ne pas savoir, c'est très angoissant. Il est prévu aussi une réouverture progressive des accueils de jour et des plateformes de répit, toujours dans ces directives du 10 mai envoyées par le ministère. Et là aussi, une reprise de l'activité des accueils de jour, alors différente que l'on soit en zone rouge ou en zone verte, on peut l'imaginer, et où en zone rouge, en effet, pour le moment, les accueils de jour et les plateformes de répit doivent rester fermées. Mais bon, en zone verte, les choses peuvent progressivement reprendre.
Merci Judith Mollard-Palacios de nous avoir accompagnés une nouvelle fois, d'avoir répondu à ces questions, à ces inquiétudes. On vous retrouvera bien entendu dans une prochaine émission.
Merci, merci à toutes et à tous. Et bon déconfinement progressif, mais avec une perspective à venir de retour à quelque chose de plus normal.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs, pour vos nombreuses questions, réactions, vos témoignages. On tâchera d'y répondre lors d'une prochaine émission spéciale. Pour cela, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 9h. Vous pouvez continuer de poser vos questions juste en dessous de cette émission radio ou sur la page Facebook de l'association France Alzheimer. Vous pouvez bien sûr réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Nous restons bien entendu mobilisés pendant cette période, plus que jamais à vos côtés. Prenez soin de vous, à bientôt.
Vos questions, nos réponses.